Chapitre 24. Nietzsche et Callan firent rapidement la jonction avec les soldats, qui s'étaient volontairement laissés un peu distancés afin de laisser de l'avance au groupe Richard s'ils devaient fuir parce que les choses tournaient mal, à savoir si le marteau ne parvenait jamais à frapper l'enclume. Alors que les deux femmes se dirigeaient vers l'entrée du défilé avec les hommes, Nietzsche invoqua une flamme qui leur permit de distinguer les pièges du terrain, mais à très courte distance pour ne pas trahir leur position. Dans la première phase de l'opération, les fugitifs étaient parvenus à distancer nettement les Shuntuks. Entraînant volontairement, les soldats avaient, en ce qui les concernait, réduit cette avance. Avec tout ça, difficile de dire quand le marteau entrerait au contact avec les demi-humains. Lorsque Nietzsche invoqua une flamme plus grande afin de mieux illuminer le terrain devant eux, Callan sentit son sang se glacer dans ses veines. « Par les esprits du bien » souffla-t-elle. Le défilé était rempli à craquer de guerriers au corps couvert de cendres. Le sergent Remkin était censé couper la retraite aux demi-humains une fois qu'ils seraient tous entrés dans le passage. Avec ses hommes, il incarnait l'enclume que le marteau, le groupe de Pfister, devait venir frapper après avoir fait demi-tour. Mais Remkin et ses gars avaient-ils seulement pu fermer la porte aux Shuntuks, considérant leur nombre? Callan dut se rendre à l'évidence. Elle ne s'attendait pas à tant d'ennemis, loin de là. Normalement, le feu de sorcier de Zed et les éclairs de Nietzsche auraient dû en éliminer un grand nombre, et ils l'avaient sûrement fait. Mais il restait assez de guerriers, très largement, pour accomplir la mission dont les avait chargés leur roi. Quand ils défendaient le camp, Callan et ses compagnons n'avaient eu aucun moyen d'estimer le nombre de Shuntuks déployés dans la forêt en face d'eux. Bien sûr, il en arrivait toujours de nouveau, mais de là à ce qu'ils soient si nombreux, une marée inhumaine. Pfister et ses hommes ne devaient pas avoir non plus prévu le désastre. Ce n'était pas un groupe de pisteurs d'esprit, mais une armée entière. Quand Sulakan et Anis Ark envoyaient des forces en mission, ils ne lésinaient pas sur le nombre. Une précieuse information sur les chefs ennemis. Ils ne négligeaient rien, préparaient soigneusement leurs actions et recouraient à la force brute pour les mener à bien. La subtilité n'était pas leur fort. Écraser un moustique avec une masse d'armes ne les dérangeait pas. Même si ce n'était pas une nouvelle réjouissante, en savoir plus sur des adversaires était toujours bon, ça évitait de les sous-estimer. Callan repensa à ce qu'avait dit le prisonnier au sujet des démons qui les guettaient, Richard et elle. L'empereur n'était pas homme à se satisfaire de simplement tuer ses ennemis. Le prisonnier, comprit l'inquisitrice, n'était pas tombé par hasard entre leurs mains. Sulakan le leur avait envoyé afin qu'il leur délivre un message. Pour Richard et Callan, la mort ne serait pas une fin mais le commencement d'une éternité de souffrance. Pas de repos éternel, pas d'infini sommeil. Oubliant ses angoisses, Callan se concentra sur le moment présent. Un seul élément jouait en leur faveur, l'étroitesse du défilé. Dans cet espace exigu, la masse d'armes aurait beaucoup de mal à s'abattre sur le moustique. En d'autres termes, la supériorité numérique perdait de son importance. Pour tenir leur position, les hommes de la première phalange n'auraient pas besoin d'être tous en première ligne. Ça leur permettrait de se relayer et de résister ainsi bien plus longtemps à la fatigue. Plus frais et plus agressifs, ils seraient d'autant plus efficaces. Richard avait pensé à ce point, et c'était pour ça qu'il leur avait fait abandonner le camp. Vu le nombre de Shuntuks, il avait pris cette décision au bon moment, à savoir très peu de temps avant une défaite inéluctable. Dans la configuration actuelle, deux groupes aux deux extrémités de la formation adverse, des hommes qui se relayaient pour affronter une masse nécessairement réduite d'adversaires pouvaient devenir de véritables machines à tuer. Sur un pareil terrain, on pouvait même parler de boucherie plus que de bataille. Mais n'était-ce pas l'essence même de la guerre? Tuer autant d'ennemis que possible, aussi vite qu'on pouvait et en subissant très peu de pertes. Les soldats se mirent en formation, faisant se chevaucher leurs boucliers, puis ils allèrent à la rencontre des Shuntuks. Reposant sur les épaules des hommes du premier rang, des lances formaient une muraille d'acier. Si les adversaires voyaient le danger et s'immobilisaient, ça ne servirait à rien, parce que le mur d'acier continuerait de fondre sur eux. Des deux côtés du piège, puisque Remkin utiliserait exactement la même tactique, pris en tenaille, les demi-humains seraient hachés menus. Un détail tracassait cependant Callan. Ces Shuntuk-là n'étaient pas seulement des brutes motivés par le désir maladif de s'approprier une âme, c'étaient des pisteurs d'esprit et d'autres sortes de pratiquants de la magie noire. Et ça changeait bien des choses. Plissant les yeux, Kalan vit que certains demi-humains, dans le flot de guerriers, avaient des yeux rouges brillants. Des morts ranimés. Un autre bâton dans les roues de la première phalange. Les Shuntuk, en assez bon état pour être ranimés, se montraient des adversaires encore plus coriaces que les vivants. Dans les rangs, Kalan distingua des demi-humains carbonisés, mais encore capables de tenir debout. Ça avait suffi pour qu'on les ranime. Ces combattants-là ne mourraient pas comme les autres. Avec eux, toucher un organe vital ne suffirait pas, il faudrait les tailler en pièces. Sans la voir, Zed croisa Kalan alors qu'il se dirigeait vers la sortie du défilé. Traînant les pieds, les bras ballants, le vieil homme était à bout de force. Hors d'état d'utiliser son don et moins encore d'invoquer du feu de sorcier. Avant de pouvoir se battre de nouveau, il lui faudrait du repos. À l'arrière, avec les hommes qui attendaient d'aller au contact ou qui en revenaient et récupéraient de l'énergie. Si on lui donnait à manger et à boire, le grand-père de Richard se remettrait assez vite. Kalan le prit par la manche, le força à se tourner vers elle et lui tapota gentiment la joue. « Tu devrais aller veiller un peu sur Richard. C'est une bonne idée, non ?» Le vieux sorcier hocha la tête, eut l'ombre d'un sourire et s'éloigna. Nietzsche aussi devait être épuisé, mais il serait impossible de l'envoyer en arrière. Plus bas dans le défilé, les Shuntuk se bousculaient pour avancer plus vite. L'étroitesse du passage, les difficultés du terrain et leur nombre les ralentissaient. Aux endroits les plus larges, ils devaient s'arrêter et attendre leur tour. Perdant patience, certains poussaient les guerriers du premier rang, allant même jusqu'à les piétiner. Progression difficile ou pas, la soif de sang et d'âme leur donnait une inépuisable volonté d'avancer. Richard avait vu juste, c'était des prédateurs. Une fois focalisés sur une proie, plus rien ne les arrêtait. Le cœur serré, Kalan dut constater que le plan de son mari avait fonctionné. Les Shuntuk s'étaient bel et bien engagés dans le défilé. Mais si géniale que fût la tactique du sorcier, les demi-humains étaient trop nombreux. La supériorité numérique, tôt ou tard, leur assurerait la victoire. Mais l'épée de vérité se fichait comme d'une guigne des rapports des forces et des probabilités. Être en état d'infériorité augmentait encore sa colère, décuplant sa soif de sang. Et quoi qu'il en soit, la configuration du terrain restait la meilleure chance des défenseurs. Pour les soldats, le plus gros problème, ce serait les morts ranimés. Cela dit, l'épée de Richard avait été créée pour faire face à de tels défis. Kalan se fraya un chemin entre les hommes, courant rejoindre la première ligne. Alors, la folie la submergea.